chanson, c'est peu de chose.
Radio Grand Ciel présente Si on chantait, avec les grandes voix de la chanson française. Une émission créée et réalisée par Gilles Secase et Patrick Durand, avec à la technique Claude Casal et au micro Christiane Blain. Après notre dernière émission à propos de Joséphine Baker et de Maurice Chevalier, nous allons évoquer aujourd'hui dans cette émission la carrière de deux immenses artistes, celle d'Edith Piaf et celle de son protégé dans les années 50, Charles Aznavour. Edith Piaf est une enfant du spectacle dont les ascendants appartenaient à ce monde depuis deux générations. Elle fut élevée par sa grand-mère, alors que sa mère, elle, était chanteuse. C'était Lynn Marsa qui l'abandonne. Elle fait alors la quête lors des prestations de son père, qui chante dans les casernes et côtoie le milieu du quartier de Pigalle. Chanteuse de rue, elle est remarquée en 1935 par Louis Leplay, patron du Gernis, qui l'engage aussitôt dans son cabaret et lui trouve un nom, la môme Piaf.
Le producteur Jacques Canetti, dans la foulée, lui fait enregistrer son premier disque et la convie à ses émissions de Radio Cité. Louis Leplay est assassiné peu après, premier drame de sa carrière. Nous allons vous faire écouter comme illustration la môme Piaf, quand même.
Mars 1936.
Le bonheur quotidien vraiment ne me dit rien. La vertu n'est que faiblesse qui voit sa fin dans le ciel. Je préfère la promesse des paradis artificiels. Je sais qu'à la porte d'un bar où j'aurais bu jusqu'à l'extrême, on ramassera quelque part mon corps brûlé sur un brancard. Je vois quand
cette chanson est intitulée « Quand même ». Elle est extraite du film « La garçonne ». Et Piaf est accompagné ici par le grand pianiste Jean Wiener. En fait, c'est le parolier Raymond Asseau qui la prend alors sous sa houlette et lui façonne avec Marguerite Monod, qui restera sa fidèle compositrice, un répertoire sur mesure. Il la baptise Edith Piaf et signe pour elle Mon Légionnaire, créé par Marie Dubas, l'inspiratrice de Piaf, et Le Fanion de la Légion. En 1937, à l'ABC, elle est la vedette américaine du duo Gilles et Julien, puis de Charles Trenet, et part en tournée avec Ray Dacquer. Le public en redemande.
J'ai chanté devant les terrasses, comme j'étais août comme ça. Mais là où tourne et le temps passe, c'est déjà loin tout ça. Paraît que j'ai tout pour être heureuse, c'est possible après tout. Et quand je suis trop capardeuse, je repense tout à coup. Entre Saint-Ouen et Clignancourt, en rêve, je vais faire un petit tour sur la zone. Les yeux clos, je revois mon passé, le ciel si doux, les durs pavés, l'herbe jaune. Et pataugeant dans les ruisseaux, des dames de gosses, moitié poulpeau, moitié faune. L'odeur des frites et des lilas, en frissonnant, je retrouve tout ça sur la zone.
Entre Saint-Ouen et Clignancourt, un titre d'avril 1937, que la môme Piaf chante accompagnée par l'orchestre de Valberg. Valberg qui est l'orchestre privilégié de Charles Trenet, on le verra plus tard. Et nous avons Émile Stern au piano. À Bobino, en 1938, elle est pour la première fois tête d'affiche. Elle y interprète 12 titres, tous de Raymond Asseau. Les tournées et les salles s'enchaînent, l'Européen, Bobino, l'ABC, le Casino de Paris. Et en avril 1940, Edith Piaf joue avec Paul Meurice, Le Bel Indifférent, pièce en un acte de Jean Cocteau. En mai, elle chante sur la scène de Bobino et au cours de l'été 1940, elle se produit dans le sud de la France, Perpignan, Montpellier, Toulon, puis en septembre 40 à Paris, au cabaret L'Aiglon et à la salle Pleyel.
Nous allons écouter « C'est lui que mon cœur a choisi ».
Juin 1939.
Je m'en rappelle plus comment qu'on s'était rencontrés. Je ne sais plus si c'est lui qui a parlé le premier, ou bien si c'était moi qui avais fait les avances. Ça n'a pas d'importance. Tout ce que je veux me rappeler, c'est lui que mon cœur a choisi. Et quand il me tient contre lui, dans ses yeux caressants, je vois le ciel qui coule quand c'est beau, c'est épatant. Il a pas besoin de parler, il a rien qu'à me regarder. Et je suis à sa merci, je ne peux rien contre lui, car mon cœur l'a choisi.
Alors malgré la guerre et l'occupation allemande, Édith Piaf continue de chanter. À l'ABC, à Bobino, Gaumont Palace, l'Européen, l'Amiral, en fait, elle fait une tournée en zone libre. Et elle va faire sa rentrée parisienne sur la scène de l'ABC à partir du 17 octobre 1942, et cela pendant 4 semaines. Édith Piaf ne vit que pour la scène, et en 1943, elle chante au Folies Belleville, au Casino de Paris, à La Vie en Rose, c'est un cabaret de Pigalle, à l'ABC et à Bobino.
Le 14 août 1943, elle quitte Paris pour Berlin. Jusqu'à la fin septembre, elle chante en compagnie de Charles Trenet et de Fred Addison et son orchestre, pour les ouvriers français forcés au travail en Allemagne et pour les prisonniers français. En février 1944, elle est reçue en tant qu'auteur à la SACEM, et à cette époque, elle coécrit « La vie en rose ». Le 14 février 1944, elle repart chanter en Allemagne, puis se produit dans 11 camps de prisonniers. À la libération, elle n'est pas inquiétée par le comité d'épuration des artistes.
Il faut écouter « La vie en rose ».
Oh, on adore.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
Voilà, La vie en rose que tout le monde connaît ou que tout le monde a déjà chanté. 1944, quand même. Donc à cette époque-là, elle prend sous son aile un débutant qui s'appelle Yves Montand.
C'est un vrai coup de foudre.
Et elle part donc en tournée avec lui. Elle incite son auteur du moment, qui est Henri Conté, à lui écrire de nouvelles chansons. Elle chante déjà donc depuis 5-6 ans avec un répertoire assez large. Elle se produit à l'Alhambra, à Bobino, Club des Cinq. Elle est accompagnée par Michel Aimer, l'accordéoniste. En 1946, elle chante et enregistre avec les Compagnons de la Chanson encore une autre chanson qui est très très connue, Les Trois Cloches. Et avec eux, elle entreprend sa première tournée américaine l'année suivante.
Et sa rencontre avec Marcel Cerdan, champion du monde de boxe, comme tout le monde sait, donne naissance à un couple, je dirais, mythique. Cerdan disparaît dans un accident d'avion en 1949, et le soir même, Édith Piaf lui dédie l'hymne à l'amour sur la scène du Versailles à New York. Le spectacle continue à Pleyel en 1950, à l'ABC en 1951, et sur des tournages de films. Padam, Padam de Henri Conté, sur une musique écrite par Norbert Glasberg, qui reçoit le Grand Prix de l'Académie du Disque en 1952.
Écoutons l'hymne à l'amour, 1950.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. L'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. De ma part, les problèmes, mon amour, puisque tu me
Piaf a mis ses paroles sur la musique de plusieurs compositeurs, mais certains ressortent du lot, de par la fréquence de leur travail avec la môme. En premier lieu, la fidèle Marguerite Monnot, avec laquelle Piaf a écrit 28 chansons, parmi lesquelles le célèbre hymne à l'amour.
Alors, Piaf se marie avec Jacques Pills. Elle a pour témoin sa grande amie, Marlène Dietrich, et elle tourne ensuite aux États-Unis. Disons que c'est l'artiste la mieux payée du moment. Alhambra et Bobino en 1954, Olympia, puis une longue tournée en Amérique en 1955, Olympia en 1956 avec L'homme à la moto, Amérique en 1957, un vrai triomphe à l'Olympia en 1958, La foule. En fait, on peut dire que son répertoire s'étoffe au gré des rencontres, que ce soit de Georges Moustaki avec Milord, la musique de Marguerite Monnot, et à Charles Dumont. Non, je ne regrette rien.
Les tournées s'enchaînent entre accidents de voiture, maladies, séjours en clinique et cures de désintoxication. Trous de mémoire, faiblesse extrême, voix qui ne sort plus, il faut parfois annuler la représentation. Le public est touché, s'enthousiasme toujours, et Bruno Cocatrix, en difficulté financière, l'appelle à la rescousse, et en 1962, elle retourne donc sur la scène de l'Olympia et triomphe, sauvant la salle de la faillite. En 1963, à Bobino, elle reçoit encore des ovations. Elle est déjà un mythe de son vivant. Elle décède le 10 octobre 1963, à l'âge de 47 ans. La vie d'Édith Piaf aura été brève et intense, le destin la rattrapant toujours lors de brefs instants de bonheur. La môme n'aura jamais su se guérir des blessures de l'enfance et des désillusions de l'amour. Elle a dédié sa vie à son public, sa relation la plus fidèle et la plus sincère. Le patrimoine laissé par Piaf est immense et nombre de ses chansons demeurent encore dans l'inconscient collectif. Piaf est sans conteste l'artiste féminine qui aura le plus marqué le XXe siècle, tant par la grandeur de sa voix que par son destin des plus tragiques.
Nous allons écouter « Plus bleu que le bleu de tes yeux ». Une écriture de Charles Aznavour.
Lorsque je lève les yeux, je rencontre tes yeux. Et je me dis, mon Dieu, c'est vraiment merveilleux, tant de bleu. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blond que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je
ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Si un jour tu devais t'en aller et me quitter, mon destin.
Cette chanson sert de transition pour évoquer la carrière de Charles Aznavour. Charles Aznavour, qui est également l'objet de notre émission, comme Christiane Blain nous l'a annoncé tout à l'heure.
Oui, alors, Charles Aznavour, c'est vraiment une personnalité hors norme. Édith Piaf a inspiré, révélé de nombreux auteurs-compositeurs et interprètes, et c'est vraiment le cas de Charles Aznavour. Alors, depuis ses débuts, Charles Aznavour a écrit plus de 1200 chansons et chanté dans 8 langues, vendu plus de 100 millions de disques. On peut dire aussi qu'il a joué dans 80 films et qu'il a présenté des milliers de concerts dans le monde entier.
Et qu'il continue.
Et qu'il continue, et c'est ça qui est très intéressant. Sa voix, pourtant, est assez inaudible. Son physique, difficile.
C'est ce que disaient les critiques à l'époque.
Oui, mais c'est vrai que quand même, il est petit, il n'est pas vraiment beau. Et en dépit de toutes ces critiques acerbes qui marquent son début de carrière, on peut dire qu'il a toujours bénéficié du soutien indéfectible du public. Et aujourd'hui, comme vous le disiez, à 91 ans, eh bien, il est encore en haut de l'affiche comme la chanson.
La force des interprétations et des textes de ce monument de la chanson rassemble nombre de générations. Charles Aznavour grandit au milieu des artistes dans le petit restaurant qu'ouvre son père, un réfugié arménien rue de la Huchette à Paris. Et dès 9 ans, il commence à se produire seul sur scène. Et 10 ans plus tard, il fait une rencontre déterminante avec Pierre Roche, un jeune compositeur d'origine canadienne, avec lequel il se produira en duo dans les cabarets parisiens.
Il faut dire aussi que Charles Aznavour est pianiste et qu'il a fait une petite carrière de cabaret en jouant du piano. Alors, à la faveur de leur notoriété, les deux hommes que l'on vient de citer se lient d'amitié avec Charles Trenet. Ils sont remarqués par Édith Piaf, la môme, qui les entraîne dans son sillage. À la fin des années 40, ils rejoignent la chanteuse, la môme, aux États-Unis, avant de se produire à Montréal durant plusieurs mois. Nous allons écouter une petite illustration qui s'intitule « Le feutre topé ». Et vous verrez qu'il ne s'agit pas du véritable Aznavour tel qu'on le connaît.
Ça, c'est 1952.
Il portait un feutre topé, il parlait par onomatopée, il buvait des cafés frappés
avec des pages.
Il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés, il marchait à pas contourner
boulevard Raspail.
Il suivait des inconnus chaque soir le long des rues pour leur dire l'air ingénu.
Petit papin, brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
On peut dire que Charles Aznavour a un sens aigu du swing, sens aigu qu'il exploitera tout au long de sa carrière dans différentes chansons qu'il produira. De retour en France, sans Pierre Roche qui s'est marié aux États-Unis, Charles Aznavour chante sans grand triomphe. En revanche, il connaît un large succès en écrivant pour les autres, pour Mistinguette, pour Maurice Chevalier, pour Patachou ou encore Édith Piaf, pour qui il adapte le titre américain de Jezebel. « Je hais les dimanches » interprété par Juliette Gréco obtiendra le prix de la SACEM en 1952.
J'ai des amours au fond de demoiselle Loulou. C'était une obsession, j'en perdais la raison. Je n'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci: oublie, oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la dent. Oublie, oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la dent. Si tu ne le veux pas, tu ne le peux pas, tu ne le pourras pas. Ah ah. Si tu le veux, tu le peux, c'est un jeu, et voilà. Ah. Oublie, oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la dent. Oublie, oublie Loulou.
On voit ici Aznavour terriblement influencé à la fois par le fait qu'il est un pianiste et par le jazz. avec ces rythmes qui sont un petit peu syncopés, qui sont swingants. Aznavour, donc, il écrit plusieurs chansons que Gilbert Bécaud, encore un grand nom, met en musique et interprète. Au début des années 50, la notoriété, petit à petit, arrive. Et en même temps, les critiques avec la notoriété. Mais c'est véritablement à la suite d'un concert à Casablanca, en 1956, que la carrière de Charles Aznavour explose. Il se produit pour la première fois à l'Olympia qui est le lieu qui sacre les vedettes, avec le titre « Sur ma vie », véritable succès. Nous allons écouter une autre illustration qui s'intitule « Si je n'avais plus ».
1958.
Si je n'avais plus, si je n'avais plus, plus qu'une heure à vivre, une heure et pas plus, je voudrais la vivre au creux de ton lit. Car j'aurais ma mie, ma peur à combattre, penchée sur ta vie, pour l'entendre battre, je pourrais garder, au fond de mon cœur, sous la terre froide, un peu de chaleur que j'emporterai.
Alors, de fil en aiguille, les contrats se succèdent. Et après un autre passage de 3 mois à l'Olympia, sa carrière prend définitivement son envol à l'Alhambra avec son interprétation de la chanson « Je me voyais déjà ». Elle a été écrite quelques mois auparavant dans un bar de Bruxelles. Cette chanson, qui n'est pas autobiographique, fut refusé par Yves Montand. Il a dû vraiment le regretter.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche.
Lors de cette soirée du 12 décembre 1960, après 7 chansons interprétées devant un public plutôt froid, l'artiste sort son ultime joker. Cette chanson, Je me voyais déjà, qui raconte l'histoire d'un artiste raté. À la fin de sa prestation, des projecteurs sont braqués sur le public, aucun applaudissement. En coulisses, Aznavour est prêt à abandonner le métier. Retournant saluer une dernière fois, il voit la salle de l'Alhambra crouler alors sous un tonnerre d'applaudissements. C'est un triomphe, il a 36 ans.
La carrière d'Aznavour à ce moment explose. Il enchaîne les tubes. Tu te laisses aller, il faut savoir. Les comédiens. Ou encore « Formi, formi, formidable ». Que c'est triste Venise, la bohème à mon émoi désormais. Voilà des titres qui ont fait des grands succès. Et ces chansons font pour la plupart référence à l'amour et au temps qui passe. En pleine vague yéyé, il écrit aussi 2 de leurs plus grands succès. Et il les écrit pour Johnny Hallyday, « Retiens la nuit », 1961. Puis un succès à Sylvie Vartan, « Je serai la plus belle pour aller danser » en 1963.
On peut dire que c'est un chanteur à succès, parce que Charles Aznavour est aussi un acteur reconnu, puisqu'il tourne sous la direction de Jean-Pierre Mocky et de Georges Franju, et il reçoit d'ailleurs le prix d'interprétation du cinéma français. François Truffaut lui offre également le rôle principal dans « Tirer sur le pianiste » en 1960, et l'année suivante, il est aux côtés de Lino Ventura dans « Un taxi pour Tobrouk » de Denis de la Patellière.
« Mon cœur se trouve au bout du monde et moi je vis au jour le jour, comptant les heures et les secondes me séparant de mon amour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra et je sécherai mes pleurs sur tes joues, mon ange, dans tes bras.
Charles Aznavour et son beau-frère, Georges Garvarentz, signeront la musique du film Un taxi pour Tobruk et la chanson sur la mélodie de Les anges dans nos campagnes. Dans les années 70, alors que Hier encore est sur toutes les lèvres, Charles Aznavour s'installe aux États-Unis. Resté proche des réalités sociétales, l'artiste se penche sur la violence avec Le temps des loups, puis se passionne pour l'histoire tragique de Gabriel Russier et compose Mourir d'aimer, qui accompagne d'ailleurs le film éponyme d'André Cayatte en 1973. Avec, comme ils disent, il n'hésite pas à aborder un thème aussi délicat qu'audacieux, celui de l'homosexualité. En 1995, Aznavour achète les éditions musicales Raoul Breton, et deux années plus tard, il est nommé officier de la Légion d'honneur, puis commandeur en 2004.
Encore un succès, Viens au creux de mon épaule, album Jazz Navour, 1998.
Les nerfs à fleur de peau, j'affronte nos problèmes. Les mots froids et tranchants ont lardé nos « je t'aime » et poignardé nos jours. Dans la plaie de nos cœurs s'est glissée la gangrène.
« Viens au creux de mon épaule » est une chanson écrite par Aznavour dans les années 50. C'est une nouvelle exploitation de son œuvre. Il reprend pour cet album 14 de ses succès sur un rythme jazzy. Il s'entoure des meilleurs artistes français du genre tels que Michel Petrucciani ou André Ceccarelli. Et il est sur ce titre que nous sommes en train d'écouter, accompagné notamment par Eddie Lewis et par Richard Galliano.
Au creux de mon épaule, bien tout contre moi, et si je fus maladroit, je t'en prie, chérie, pardonne-moi.
Depuis le terrible tremblement de terre de 1988, ayant frappé l'Arménie, Charles Aznavour ne cesse d'apporter son soutien au pays d'origine de ses parents grâce justement à sa fondation Aznavour pour l'Arménie. Sa chanson, en 1989, Pour toi, Arménie, enregistrée avec la collaboration de plus de 80 artistes, se hisse au sommet des hit-parades. Et on peut dire qu'en 2001, pour le remercier, son nom est donné à une place dans le centre d'Erevan, la capitale arménienne, sur la rue Abovian, par les autorités du pays. Une statue lui est même érigée à Gyumri, la ville d'Arménie la plus touchée par le séisme de 1988.
Charles Aznavour sort fin 2009 Charles Aznavour and the Clayton Hamilton Jazz Orchestra, un opus évidemment résolument jazzy, enregistré dans les mythiques studios de la Tour Capitol d'Hollywood, prisé notamment en son temps par Dean Martin ou encore Frank Sinatra. Cet album porte également la marque de l'arrangeur et contrebassiste John Clayton. Parmi les 14 titres des incontournables de Charles Aznavour, comme La Bohème, À ma fille ou encore Comme ils disent, ainsi que deux inédits,
faire une jambe.
Un titre enregistré pour la première fois en 1957.
En 2010, Charles Aznavour reçoit une victoire d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.
Retrouvez-nous, chers auditeurs, le mois prochain avec notre série qui sera consacrée à Charles Trenet et René Lebas. Vous pourrez également nous réécouter sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci.